Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 16 janvier 2025. Les États-Unis prévoient de sanctionner Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, après avoir pris des mesures similaires contre les forces de soutien rapide. Au Nigeria, 9 soldats ont été tués par Boko Haram après l'enterrement des victimes du dernier massacre djihadiste. En Guinée, les principaux partis d'opposition appellent au retrait de leurs représentants du Parlement de transition.
J'étais engagé que Midi, qui est comme membre de l'organe de la transition, ne soit que candidat à l'issue de cette transition. Mais aujourd'hui, tout est fait pour que cela soit remis.
Souleymane Souza Konaté, porte-parole de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, à suivre dans la partie magazine. La France et l'Angola appellent à la reprise du dialogue au plus haut niveau entre Kinshasa et Kigali lors de la visite d'État du président angolais en France. Israël, qui n'a pas encore approuvé officiellement l'accord de cessez-le-feu sur Gaza, accuse la de vouloir en rediscuter certains points. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco. On commence par le journal. Les États-Unis entendent imposer des sanctions contre le dirigeant soudanais et chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan. Cette décision vise à montrer l'engagement de Washington à faire pression sur les deux belligérants pour favoriser une transition vers un gouvernement dirigé par des civils. Nani Talani nous en dit plus.
L'objectif de ces sanctions est de démontrer que les États-Unis visent à punir les deux parties du conflit tout en incitant à une transition vers un gouvernement civil. Selon l'une des sources, un diplomate, les sanctions sont motivées par le fait que les forces armées soudanaises ont pris pour cible des civils et des infrastructures civiles. Les militaires sont aussi accusés d'avoir refusé l'accès à l'aide humanitaire et de participer au pourparlers de paix l'année dernière. L'armée soudanaise n'a pas réagi à une demande de commentaire et les porte-paroles des départements d'État et du Trésor n'ont pas répondu non plus. Les sanctions annoncées interviennent peu après celles imposées à Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti, le chef des paramilitaires des FSR et rival d'Abdel Fattah al-Burhan, dans la guerre qui dure depuis près de 2 ans au Soudan. Cette crise qui a éclaté en avril 2023 a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé des millions de personnes et plongé une grande partie de la population dans la famine.
Au Soudan du Sud voisin, Médecins sans frontières dénonce une attaque contre son personnel dans le Haut-Nil. Des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur les bateaux, forçant le personnel de MSF à sauter à l'eau et à nager jusqu'à un village voisin pour se mettre à l'abri, écrit l'organisation, précisant qu'un de 6 membres de MSF a été blessé lors de sa fuite. Après cette attaque, MSF annonce suspendre tous les mouvements dans la région. Au Nigeria, au moins 9 soldats ont été tués dans des affrontements avec les djihadistes de Boko Haram dans le nord-est, quelques jours après les meurtres de dizaines d'agriculteurs par un groupe djihadiste rival. Claire Morejibou.
Nous avons perdu 9 soldats dans des échanges de tirs avec les terroristes de Boko Haram et 5 autres sont toujours portés disparus, a déclaré un officier de l'armée. Les affrontements ont eu lieu mardi, 2 jours après que des dizaines de fermiers ont été abattus par des combattants de l'ISWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, sur les rives du lac Tchad, dans l'État de Borno. Les soldats ont été attaqués alors qu'ils rentraient du village de Tumbun, Kanta, où ils ont aidé les habitants à enterrer les dizaines d'agriculteurs tués dimanche par des combattants de l'ISWAP, pour les punir d'avoir empiété sur leur territoire sans autorisation. Selon les autorités locales, 40 agriculteurs ont été tués, mais des milices anti-djihadistes et des habitants ont affirmé que le bilan était supérieur à 100 morts. L'ISWAP et Boko Haram sont engagés dans des luttes intestines meurtrières pour le contrôle du territoire depuis leur scission en 2016 en raison de divergences idéologiques. Depuis 2009, le conflit djihadiste a fait plus de 40 000 morts et environ 2 millions de déplacés dans le nord-est du Nigeria.
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, en visite à Moscou, a salué aujourd'hui l'aide portée par de braves guerriers russes à son pays, où la Russie avait dépêché des mercenaires présentés comme instructeurs militaires. Aujourd'hui, l'armée formée par ces instructeurs russes est une force puissante qui poursuit et détruit les terroristes et autres criminels en Centrafrique. C'est félicité Faustin Archange Touadéra en marge d'une rencontre avec Vladimir Poutine. Les présidents français Emmanuel Macron et angolais João Lourenço ont appelé ce jeudi à la reprise des discussions au plus haut niveau entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en vue de régler le conflit dans l'est de la RDC. Eric Manirakiza.
La priorité doit aller au dialogue et à la recherche d'une paix durable, a déclaré Emmanuel Macron, qui dit soutenir les efforts de médiation du président Lourenço sur la crise dans les Grands Lacs. Pour sa part, le président João Lourenço a indiqué que l'Angola est en train d'assumer son rôle de médiateur afin d'essayer de mettre fin à ce conflit. En décembre, une rencontre prévue à Luanda entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame a été annulée à la dernière minute. À l'occasion de cette visite d'État en France, M. Macron et Lourenço, qui va prendre en février la présidence tournante de l'Union africaine, ont appelé solennellement à la reprise des discussions au plus haut niveau. Sur le plan bilatéral, les présidents français et angolais ont procédé à la signature de contrats d'investissement à hauteur de 430 millions d'euros. Ils se sont aussi engagés à renforcer la lutte contre l'immigration illégale et le terrorisme. Le président Lourenço a manifesté l'intérêt de renforcer la coopération dans l'agriculture, le tourisme, la santé, l'enseignement supérieur, les ressources en minerais, le pétrole et le gaz. Lors de la visite d'Emmanuel Macron à Luanda en mars 2023, les deux pays avaient conclu un partenariat pour développer la filière agricole et agroalimentaire en Angola.
En Afrique du Sud, les opérations de secours ont pris fin ce jeudi dans un puits aurifère illégalement exploité où 78 corps et 246 mineurs clandestins ont été extraits depuis le début de la semaine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le programme économique du président américain élu Donald Trump devrait permettre de lancer un nouvel âge d'or économique aux États-Unis, a promis son candidat au poste de secrétaire au Trésor, Scott Bessent, durant son audition devant le Sénat ce jeudi. Le candidat républicain qui a remporté l'élection présidentielle le 5 novembre dernier prévoit notamment de pérenniser les baisses d'impôts votées durant son premier mandat qui arrive à terme en 2027 et même de les renforcer. Israël a mené de nouvelles frappes aériennes sur Gaza ce jeudi et accuse le Hamas de remettre en cause l'accord de cessez-le-feu et de libération d'otages avant un vote attendu de son cabinet. Alexandrine Ollognon.
Les autorités israéliennes ont affirmé ce matin attendre des garanties des pays médiateurs que le Hamas a accepté tous les éléments de l'accord. Selon le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou, le mouvement islamiste palestinien est revenu sur certains points pour extorquer des concessions de dernière minute. Un haut dirigeant du Hamas a rejeté ces accusations, assurant que le mouvement s'en tenait à l'accord. L'accord, annoncé mercredi par les pays médiateurs que sont le Qatar et les États-Unis, est en cours d'élaboration. Elle prévoit dans une première phase une trêve à partir de dimanche, la libération de 33 otages israéliens en échange d'un millier de prisonniers palestiniens et une augmentation de l'aide humanitaire. Dans le même temps, Israël a poursuivi ses frappes sur la bande de Gaza, selon la défense civile du territoire, qui a fait état de 73 personnes tuées depuis l'annonce de l'accord mercredi soir, dans une forte intensification des bombardements.
Et l'Égypte appelle à la mise en œuvre sans délai de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, lequel se dit par ailleurs prêt à accueillir une conférence internationale sur la reconstruction de l'enclave palestinienne. Le premier ministre du Qatar a pour sa part demandé ce jeudi, depuis Damas, à Israël de se retirer immédiatement de la zone tampon avec la Syrie, région qu'il a occupée après la chute du pouvoir de Bachar al-Assad. Le premier ministre britannique Keir Starmer et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont signé aujourd'hui un accord de partenariat liant leurs pays pour les 100 prochaines années, notamment en matière de sécurité. La visite de Keir Starmer à Kiev intervient deux jours après celle du ministre allemand de la Défense Boris Pistorius, à un moment où les dirigeants européens étudient les garanties de sécurité qu'ils pourraient fournir à l'Ukraine après la fin de la guerre. Et puis le pape François s'est blessé à l'avant-bras droit lors d'une chute ce matin dans sa résidence, mais ne souffre d'aucune fracture, a annoncé le Vatican. François, qui a fêté ses 88 ans en décembre dernier, a souffert de la grippe et de problèmes connexes à plusieurs reprises au cours des deux dernières années. Dans une autobiographie publiée ce mercredi, le pape François minimise les inquiétudes concernant sa santé et exclut de démissionner, comme l'a fait son prédécesseur Benoît XVI. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Claire Morin-Gibou.
Au Tchad, l'arrivée du fournisseur d'accès Internet par satellite américain Starlink dans le pays inquiète. Selon Ecofin, les opérateurs locaux ont abordé la question avec l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Grâce à ses nombreux satellites, Starlink peut couvrir tout le Tchad, alors que de nombreux consommateurs se plaignent de la qualité des services actuels. La 7e édition de Transform Africa Summit aura lieu à Kigali, au Rwanda, du 22 au 24 juillet. Ce forum africain consacré à la transformation numérique est organisé par Smart Africa, l'alliance publique-privée panafricaine qui essaye d'accélérer le développement socio-économique grâce aux TIC. La Chine a annoncé ce jeudi le lancement d'une enquête sur les importations de puces électroniques américaines à technologie dite mature, employées aussi bien dans l'automobile que l'électroménager. Début décembre, Washington avait annoncé de nouvelles mesures de restriction à l'exportation vers le territoire chinois de semi-conducteurs afin d'entraver la capacité de la Chine à acquérir et produire les technologies nécessaires à sa modernisation militaire.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Tirage au sort hier du CHAN à Nairobi.
Oui, effectivement, la CAF a procédé au tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations 2020 Nairobi au Kenya qui co-organise la compétition avec la Tanzanie et l'Ouganda. Cette édition doit regrouper 19 équipes participantes réparties en 4 groupes, une poule classique de 4 équipes et 3 poules de 5. Dans le groupe A, on retrouve le Kenya, le Maroc, l'Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie. Le groupe B renferme la Tanzanie, Madagascar, la Mauritanie, le Burkina Faso et la République centrafricaine. Le champion en titre, le Sénégal, partage le groupe D avec le Congo, le Soudan et le Nigeria.
Deux équipes de la poule C restent encore à déterminer.
Ces deux équipes viendront compléter la poule C composée pour l'heure de l'Ouganda, du Niger et de la Guinée. Elles seront déterminées lors des matchs de qualification spéciale à une date qui sera annoncée ultérieurement. Les équipes concernées sont la Sierra Leone, les Comores, l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie. Ces deux derniers pays qui s'étaient retirés des qualifications au CHAN en raison de conflits d'horaires, initialement prévus du 1er au 28 février de cette année, le tournoi a été reporté au mois d'août prochain.
Un fonds d'investissement américain rachète les Las Véronnes.
Presidio Investors, une société de capital investissement basée à Austin, au Texas, et Maurizio Setti sont heureux d'annoncer que Presidio s'est porté acquéreur de 100% du capital de l'Hellas Vérone. C'est ce qu'indique le club italien qui occupe actuellement la 17e place du championnat d'Italie. Le montant de la transaction n'a pas été précisé, mais selon la presse économique italienne, il serait compris entre 120 et 130 millions d'euros pour un club en difficulté financière. Presidio Investors est un fonds d'investissement spécialisé dans la technologie. L'Hellas sera dirigé désormais par Italo Zanzi, un Américain d'origine italienne qui a longtemps travaillé à la CONCACAF et à la Ligue professionnelle de baseball. Il connaît la Serie A pour avoir été directeur général de l'AS Rome. Après ce rachat, 8 des 20 clubs évoluant en Serie A sont désormais aux mains de propriétaires américains.
NBA pour finir avec les résultats de la nuit dernière.
Le champion Boston, deuxième à l'Est, a été surpris par le mal classé Toronto 13e, victorieux 110 à 97 sur son parquet. De leur côté, après avoir dû concéder une prolongation, les New York Knicks ont fini par l'emporter contre leurs rivaux des Philadelphia Sixers, 125-119. Les San Antonio Spurs ont courbé les Chines devant les Memphis Grizzlies, 129-115. Victor Wembanyama a été tout proche d'un rare triple-double, 13 points, 12 rebonds et 8 contres. Les Houston Rockets, solides deuxième à l'ouest, se sont montrés implacables face aux Denver Nuggets, battus 128-108. Les Dallas Mavericks, finalistes la saison passée, ont subi une huitième défaite en 10 matchs à la Nouvelle-Orléans, 119-116.
Page de sport VOA Afrique, signé Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les Forces vives de Guinée, une plateforme réunissant des partis d'opposition et des organisations de la société civile, ont appelé leurs membres à se retirer sans délai de toutes les institutions de la transition. Eric Manirakiza a joint à Conakry l'un des leaders de ce rassemblement, Souleymane Souza Konaté, porte-parole de la coalition d'opposition ANAD, Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie.
Pour moi, c'est une question de cohérence et de principe. En même temps, je vous souviendrai que le 22 avril dernier, nous avons sorti un communiqué dans lequel nous avons clairement dit que pour nous, la transition en Guinée prend fin au plus tard le 31 décembre 2024. Ces délais dépassés, le CNRD ne serait plus légitime pour conduire la transition dans le pays et qu'on allait exiger la mise en place d'une transition civile à l'effet d'organiser les élections pour faciliter le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, après la manifestation du 6 janvier 2025, la décision a été prise d'inviter tous les cadres maquillants qui sont dans les organes de la transition de quitter leur poste et de rejoindre leur formation politique pour préparer les prochaines contestations dans le pays.
Est-ce que vos représentants vont suivre votre appel?
Il y a eu une large concertation au niveau, n'est-ce pas, des entités membres des forces vives de Guinée. Et aujourd'hui, le retour qu'on a, c'est que à 80%, ils sont prêts à suivre ce nouvel plan. Les autres sont en concertation avec leur état major. Ce soir-là, nous allons faire le point. En ce qui concerne la main de tous les quatre que nous avons à ce niveau-là, on clairement dit qu'ils vont suivre le nouvel de demain.
Quelles seraient les conséquences éventuelles de cette décision ou de cet appel que vous avez lancé?
Les conséquences que nous nous préparons du côté des forces russes de Guinée pour accentuer la pression sur la junte militaire au pouvoir, parce que pour nous, le retour à l'ordre constitutionnel est inévitable. Et aujourd'hui, il y a une réelle volonté de la part, n'est-ce pas, des militaires au pouvoir de confisquer ce pouvoir-là. Toutes les actions qui ont été définies de commun accord avec l'institution sous-régionale, la CEDEAO, rien n'a pratiquement commencé sur le terrain, qui puisse rassurer les acteurs politiques et sociaux que nous sommes, qui sont de bonne foi, qui sont disposés à céder le pouvoir. Aujourd'hui, toutes les activités artistiques, culturelles et sportives sont organisées partout sur l'ensemble du territoire national pour susciter la candidature du général Mamadi Doumbia, ce qui est illégal au regard non seulement de la charte de la transition qu'ils ont élaborée et imposée au peuple de Guinée, mais illégal au regard des engagements majeurs pris par le général Doumbia lui-même. Il s'était engagé que Nili, ni aucun membre des organes de la transition ne peut être candidat à l'issue de cette transition. Mais aujourd'hui, tout est fait pour que cela soit réuni.
Vous n'auriez pas peur de représailles éventuelles?
Aujourd'hui, tout le monde est en sursis en République de Guinée, très malheureusement. Les arrestations, les enlèvements, les kidnappings sont devenus des normes sur la junte au pouvoir. Et il y a des dizaines de Guinéens qui sont aujourd'hui en prison. Leur seul crime, c'est d'avoir dit non à la confiscation du pouvoir, c'est d'avoir invité, n'est-ce pas, les autorités à respecter les principes de la démocratie, des libertés et de l'état de droit. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des réelles menaces, n'est-ce pas, pour chacun de nous, mais nous continuons à nous battre parce qu'on ne peut pas quand même laisser le pays sombrer. Il y a beaucoup de sacrifices qui ont été consentis pour que la Guinée soit un pays cité en exemple parmi les pays les mieux outillés en matière de démocratie, de liberté, mais surtout de promotion des droits humains. Pour nous, il n'est pas question de revenir à la case de départ. Le CNRD doit accepter de revenir aux fondamentaux de la transition, gérer sur les affaires de l'homme et organiser des élections pour permettre aux Guinéens de choisir librement l'homme ou la femme capable de conduire la destinée les 5 prochaines années.
Souleymane Souza Konaté, porte-parole de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie en Guinée. Le Hamas et Israël ont conclu un cessez-le-feu en plusieurs phases qui conduira à la libération de certains otages détenus par le groupe militant depuis plus d'un an. Le président Joe Biden a salué l'accord et a exhorté son successeur Donald Trump à le mettre en œuvre. L'accord doit entrer en vigueur vendredi. Les détails avec Anita Powell, le récit est de Nani Talani.
Des célébrations à Gaza où les habitants assiégés ont appris qu'un accord de cessez-le-feu avait enfin été conclu. Anxiété à Tel Aviv où les familles des otages attendaient de savoir si leurs proches seraient parmi les premiers à être libérés dans le cadre de l'accord en plusieurs étapes. Soulagement à Washington où Joe Biden, dont la présidence tire à sa fin, a salué l'accord de cessez-le-feu en trois phases qui met fin à 15 mois de violence, de déplacement et d'angoisse.
Les combats à Gaza vont cesser et bientôt, les otages vont rentrer dans leurs familles.
Le président élu Donald Trump a déclaré sur son réseau de médias sociaux qu'il était ravi de l'accord et que son administration s'appuierait sur ce succès pour étendre les accords d'Abraham négociés par les États-Unis afin de normaliser les relations israélo-arabes. Les analystes estiment que les menaces de M. Trump, s'il n'y avait pas d'accord avant son investiture, ont peut-être joué un rôle. Mirette Mabrouk est chargée de recherche au Middle East Institute.
Vraiment, il n'y a pas beaucoup plus d'enfer que vous pourriez déchaîner sur les habitants actuels de Gaza. Ils sont déjà en enfer, mais on a aussi le sentiment qu'il a dû faire pression sur le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et c'est pourquoi nous allons maintenant de l'avant.
Et quelle sera la suite? Les analystes ne sont pas optimistes quant à la capacité de la prochaine administration à trouver une solution à deux États. Jonathan Rui est directeur de la politique étrangère au DINSA, l'Institut juif pour la sécurité nationale de l'Amérique.
Je ne le vois pas sous l'administration Trump. Et ce n'est pas carrément une critique de l'administration Trump ou de qui que ce soit d'autre. Je pense que les Israéliens et les Palestiniens sont très loin de conclure les accords difficiles nécessaires pour parvenir à une solution à deux États.
L'accord proposé par le Premier ministre du Qatar comporte trois étapes. Tout d'abord, la libération de 33 otages au cours d'un cessez-le-feu de 42 jours et l'augmentation de l'aide à Gaza. Ensuite, les négociations s'engagent sur la deuxième phase qui vise à mettre un terme définitif au conflit avec un retrait total d'Israël et la libération de tous les otages restants. La troisième phase couvre la reconstruction de Gaza avec une nouvelle structure de gouvernement et de sécurité.
Audition de confirmation au Sénat hier de Marco Rubio, choisi par le président élu Donald Trump pour le poste de secrétaire d'État. Nathalie Bage relate un résumé de Catherine Gibson, correspondante de VOA au Congrès.
Marco Rubio a déclaré que s'il était confirmé, il ferait de l'intérêt national des États-Unis une priorité.
Placer notre intérêt national au-dessus de tout le reste n'est pas de l'isolationnisme, c'est la prise de conscience commune qu'une politique étrangère centrée sur notre intérêt national n'est pas une relique désuète.
Le sénateur républicain de Floride a reçu un accueil positif à la fois des démocrates et des républicains au sein de la commission sénatoriale des relations étrangères, où il a servi pendant 14 ans. Le sénateur républicain Rick Scott.
Le président élu Trump et le sénateur Rubio sont lucides et comprennent que là où la liberté et la démocratie existent, l'Amérique a des solides alliés et des partenaires commerciaux de confiance. Marco a un solide bilan en matière de responsabilisation des régimes communistes de Chine, de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua pour leur repression et leur tyrannie. Il travaillera avec le président Trump pour punir les régimes communistes pour leurs crimes.
Donald Trump a déclaré qu'il chercherait à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine dès son entrée en fonction. Jeanne Chahine, sénatrice démocrate de la Commission des relations étrangères.
Selon vous, que faut-il faire pour garantir que nous ayons la position de négociation la plus forte possible si l'Ukraine et la Russie parviennent à la table des négociations?
Je pense que la position officielle des États-Unis devait être de mettre fin à cette guerre. Et la question serait de savoir quel rôle pourrons-nous jouer. La première chose est de lire très clairement, à la différence de l'administration Biden, durant laquelle il n'avait jamais été clairement défini quel était l'objectif final du conflit.
Marco Rubio a également évoqué les possibilités ouvertes par le cessez-le-feu à Gaza.
Il y a des opportunités aujourd'hui au Moyen-Orient qui n'existaient pas il y a 90 jours, que ce soit ce qui s'est passé au Liban, ce qui s'est passé en Syrie et ce qui, espérons-le, se produira avec le cessez-le-feu et la libération des otages après une détention horrible et des actions injustifiables du Hamas.
Et pour l'avenir, M. Rubio a estimé que la plus grande menace pour les États-Unis est le Parti communiste chinois.
Ils ont des éléments que l'Union soviétique n'avait jamais possédés. Ils ont un concurrent technologique, industriel, économique et géopolitique, un concurrent scientifique maintenant et dans d'autres domaines. C'est un défi extraordinaire qui, je crois, définira le 21e siècle.
Fils d'immigrés cubains, Marco Rubio sera le premier secrétaire d'État latino-américain s'il est confirmé comme prévu. Le vote au Sénat pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine.
Le 20 janvier 2025, Donald Trump devient le 47e président des États-Unis et retrouve le fauteuil présidentiel qu'il avait perdu en 2020.
Suivez en direct sa prestation de serment sur toutes les plateformes de VOA Afrique.
Reportage, analyse et compte rendu en direct de nos reporters sur le terrain.
Ne ratez pas notre couverture complète à partir de 16h temps universel sur Facebook et à la radio.
À la télé, nous vous proposons une édition spéciale du Monde aujourd'hui de 19h30 à 20h temps universel.
L'investiture de Donald Trump comme 47e président des États-Unis, c'est le 20 janvier 2025 sur VOA Afrique.
Dans son discours d'adieu prononcé mercredi soir depuis le bureau ovale, le président Joe Biden a mis en garde contre ce qu'il appelle les dangers de la concentration du pouvoir et des richesses entre les mains d'une minorité. Patsy Widakuswara nous fait le point, le récit est de Lionel Gaïma.
Le président américain Joe Biden quittera la Maison Blanche à la fin de son mandat le 20 janvier. Dans son discours d'adieu mercredi soir, il a lancé un avertissement.
La dangereuse concentration de pouvoir entre les mains d'un très petit nombre de personnes très riches. Les conséquences dangereuses si leur abus de pouvoir n'est pas contrôlé. Aujourd'hui, une oligarchie d'un pouvoir et d'une influence extrême est en train de prendre forme en Amérique et menace littéralement notre démocratie tout entière, nos droits fondamentaux et notre liberté.
En parlant d'oligarchie, le président n'a pas précisé à qui il faisait référence. Mais certains des plus grands milliardaires du pays, dont Elon Musk, ont tissé des liens étroits avec le président élu Donald Trump. Sans nommer personne, M. Biden s'est moqué de la récente décision du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, selon laquelle l'entreprise de médias sociaux, maison mère de Facebook et Instagram, ce serait de travailler avec les vérificateurs de faits.
La presse libre s'effondre, les rédacteurs disparaissent, les médias sociaux abandonnent la vérification des faits. La vérité est étouffée par des mensonges racontés pour le pouvoir et le profit.
M. Biden a terminé son mandat sur une note positive en matière de politique étrangère. Quelques heures auparavant, il avait annoncé qu'Israël et le Hamas avaient conclu un accord de cessez-le-feu et de prise d'otages à Gaza. Cet accord sera largement mis en œuvre par la nouvelle administration.
C'est pourquoi j'ai demandé à mon équipe de tenir l'administration en compte pleinement informée, car c'est ainsi que les choses doivent se passer en travaillant ensemble en tant qu'Américains.
Dans une lettre publiée mercredi, Joe Biden revient sur le début de son administration dans le sillage de la pandémie du Covid et l'attaque du 6 janvier contre le Capitole. M. Biden quitte ses fonctions après un seul mandat, avec un taux de popularité de 39% seulement, selon Gallup. La façon dont son héritage sera perçu peut également dépendre de son successeur, Thomas Schwartz, historien de la présidence de l'Université Vanderbilt.
Si Trump s'avère vraiment aussi dangereux pour les normes démocratiques que Biden et d'autres démocrates l'ont suggéré, alors je pense que Biden pourrait être perçu comme très prophétique. Mais sinon, je pense que si les choses sont moins apocalyptiques avec Trump et que vous voyez plus ou moins une présidence plus normale qui rencontre des problèmes et a quelques réalisations, je pense que l'on se souviendra davantage de Biden pour ce qu'il a réellement accompli.
Selon la Maison Blanche, les réalisations de M. Biden comprennent la forte relance économique. Bien que M. Biden ait tenté de réduire les relations avec l'étranger, il est surtout critiqué pour la sortie chaotique des États-Unis d'Afghanistan.
M. Biden a terminé en remerciant la nation pour le privilège qu'elle lui a donné de servir.
I still believe in the idea for which this nation stands.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.